Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre programme. Le Forum économique du Fonds mondial de solidarité se tient du 22 au 26 mai. L'assemblée plénière de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire a pris fin hier dimanche. On en parle en actualité de l'Église. En actualité sociale et politique, nous ferons notamment le point sur la situation au Soudan. À la fin de ce programme, le cardinal Nzapa Laïnga sera notre invité. Restez avec nous, les détails c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape François a reçu en audience lundi matin Kirill Petkov, premier ministre de la République de Bulgarie, et Dimitar Kovachevski, président du gouvernement de la République de Macédoine du Nord. Toujours lundi matin, l'évêque de Rome a rencontré la délégation du Service national italien de protection civile. Dans son message, François a rappelé à ses hôtes que la première protection dont nous avons besoin est celle qui nous préserve de l'isolement social et la deuxième, celle contre les catastrophes environnementales. Monseigneur Janut Urbantik, représentant permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, OSC en sigle, a participé lundi à la séance d'ouverture de la deuxième réunion préparatoire du 30e Forum économique et environnemental de l'OSE sur les thèmes « Promouvoir la sécurité et la stabilité dans l'espace de l'OSE par une reprise économique durable après la pandémie de Covid-19 ». Et dans le même registre, il se tient à Davos en Suisse, le Forum économique du Fonds mondial de solidarité du 22 au 26 mai 2022. Marta Guglielmetti, directrice exécutive du Fonds de solidarité mondiale, nous explique.
Une alliance globale qui en fait a été créée pour travailler avec les organisations religieuses, toutes les religions et toutes les faiths, et le secteur privé. Pour trouver des solutions innovatives qui peuvent vraiment donner des solutions pour les gens qui sont en marge de la société.
Et ici, il y a aussi le message du pape, il y a l'encyclique Laudato aussi qui est dans les discussions, dans les débats. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt de la part de l'économie, par exemple, des entrepreneurs, des financiers qui sont intéressés à ce message?
Oui, encore une fois, je vois que vraiment, c'est pas seulement le lieu qui est parfait, qui est naturel pour nous, mais c'est aussi le timing, en fait. Parce que là, c'est vraiment, on vit un moment où le secteur privé, la plupart des secteurs privés, ils essayent vraiment, moi j'y crois, de trouver des solutions qui, of course, permettent à l'entreprise de survivre, parce que ça, pour eux, c'est vraiment du profit. Alors, moi, je ne dis rien pas, mais de le faire d'une façon qui est positive pour la société, où les entreprises travaillent. Donc, ils vont trouver vraiment une façon d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Vous avez nommé le pape Francis. Il est vraiment un champion. Il rappelle à tout le monde qu'une économie qui peut être vraiment positive aujourd'hui, ça doit être une économie qui est plus inclusive.
Marta Guglielmetti, directrice exécutive du Fonds de solidarité mondiale, dans des propos recueillis par Mario Galgano. Monseigneur Paul-Richard Gallagher avait conclu dimanche 22 mai sa visite en Ukraine, au cours de laquelle il s'est rendu notamment à Kiev et a prié devant les fosses communes de Boucha. Tout en reconnaissant le droit de l'Ukraine de se défendre, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États avait mis en garde contre une relance de la course aux armements. En Côte d'Ivoire, la 121e Assemblée plénière de la Conférence des évêques a pris fin dimanche 22 mai 2022. Des détails sur la messe célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois à cette occasion avec Marcel Aristonblé.
Synode signifie marcher sur la même route, marcher ensemble, rencontrer, écouter, discerner, explique le cardinal Jean-Pierre Coutois. Et cela ne peut se faire que si nous prenons conscience que l'intransigeance et le refus de la grâce sont de gros handicaps dont il faudra nous défaire. Nous devons comprendre que tous, autant que nous sommes, avec nos différences, nous sommes appelés à une même et unique mission, annoncer l'évangile de Jésus-Christ en étant ses témoins. Cela requiert qu'à défaut de supprimer les barrières entre nous, que nous les fassions tomber, faire remarquer le célébrant. La solution pour faire tomber ces barrières, estime l'archevêque d'Abidjan, est ce que l'Esprit Saint lui-même a inspiré aux apôtres. C'est de s'abstenir de tout ce qui pourrait troubler la vie commune, en particulier pour les repas, pour maintenir la communion, pilier essentiel de cette marche synodale engagée par toute l'Église. Tout baptisé selon le prélat est appelé à la mission dans l'Église et par mandat de l'Église. La mission se fait donc ensemble et non individuellement en communion avec la communauté ecclésiale, et non de sa propre initiative, fait remarquer le cardinal Courtois. En tant que disciple de Jésus-Christ, a conclu le cardinal Jean-Pierre Courtois, nous aussi, nous devons faire en sorte à rester fidèles à sa parole. Tous autant que nous sommes évêques, prêtres et fidèles laïcs du Christ, nous devons comprendre que nous portons une parole qui n'est pas la nôtre et nous devons nous garder de l'édulcorer au gré de nos intérêts personnels. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Les travaux de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena au Tchad avancent à grands pas. Une visite guidée des architectes nationaux et internationaux le 19 mai dernier a permis à M. Amadou Gueye, chef d'exécution de la société Satom, d'affirmer que les fidèles catholiques pourront célébrer Noël 2022 dans leur cathédrale. Séverin Dingantoloum.
La restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena, à l'identique de la première construction consacrée en mars 1965, est le vœu de la population tchadienne en général et des fidèles catholiques en particulier, afin de tourner à jamais les pages de la guerre. Car la première construction de 1965 a subi l'incendie en 1980 suite à la guerre civile au Tchad. Les coûts élevés de la réhabilitation ont poussé la communauté catholique d'alors à opter pour un projet modeste en 1983. Depuis 2013, il a été initié le projet de la restauration à l'identique de la première construction. Finalement, c'est en octobre 2018 que le projet a démarré avec l'appui de l'État tchadien. Pour le chef d'exécution des travaux, M. Amadou Gueye, malgré les crises traversées, les fidèles pourront enfin reprendre les célébrations à la cathédrale en décembre de cette année.
On a traversé plusieurs crises. Maintenant, les travaux ont repris et on est vers la fin. Normalement, les fidèles pourront prier au niveau de la cathédrale en décembre. Ça, vraiment, on fera tout. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les travaux se terminent à date.
Notons que le coût global de la restauration de cet édifice s'élève à un montant de plus de 5 milliards de francs CFA, montant pris en charge entièrement par l'État tchadien. Séverin Dingantoloum pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un navire ambulance affrété par l'ONG européenne SOS Méditerranée, l'océan Viking, a récupéré dans la nuit de dimanche à lundi 75 migrants au large de la Libye. Avec ses sauvetages, le navire ambulance qui opère avec l'aide de la Fédération internationale de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge compte désormais 233 migrants à bord, dont 40 femmes parmi lesquelles 6 sont enceintes. L'Afrique du Sud souffre d'un racisme encore quotidien, a regretté lundi le président Cyril Ramaphosa, une semaine après la diffusion d'une vidéo qui a indigné le pays, montrant un étudiant blanc de l'université des Stellenbosch dans la région du Cap uriner sur les livres d'un camarade noir. Le chef de l'État a qualifié cet incident de dégradant et humiliant. Restons en Afrique du Sud. Le pays, touché par des inondations meurtrières sans précédent le mois dernier, est à nouveau frappé par de fortes intempéries qui ont déjà déplacé environ 500 personnes sur la côte est, ont fait savoir les autorités dimanche. Aucune victime n'a été signalée pour l'instant, mais d'importantes destructions ont déjà été constatées, principalement dans l'agglomération de Durban, capitale de la province du KwaZulu-Natal. Première tournée en Afrique pour Olaf Scholz. Le chancelier allemand se trouvait à Niamey, la capitale du Niger, après une première étape express à Dakar, vue de la capitale du Sénégal. Ce déplacement se fait dans l'ombre de la guerre en Ukraine et ses conséquences internationales. Le compte-rendu des Benoît Almeras.
Il y a d'abord celle sur les prix de l'énergie. On le sait, le conflit russo-ukrainien entraîne une explosion mondiale des cours et dans ce cadre, Olaf Scholz dit avoir envie de poursuivre les projets gaziers initiés avec Dakar. Alors que l'Allemagne cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, les 450 milliards de mètres cubes de réserves de gaz du Sénégal intéressent la République fédérale. Sur le plan diplomatique, le chancelier allemand a aussi convié le président sénégalais Macky Sall au prochain G7. Le sommet des grandes puissances se tiendra le mois prochain en Bavière. La guerre en Ukraine sera au menu des discussions avec, entre autres, son impact pour l'Afrique. Le conflit y a aggravé la hausse des prix du blé et des engrais. C'est dans ce contexte qu'Olaf Scholz se trouve aujourd'hui au Niger. Le pays sahélien est confronté à sa pire crise alimentaire depuis 10 ans. Dakar, Benoît Almeras pour Radio Vatican.
Le chancelier allemand s'est ensuite rendu en Afrique du Sud dimanche soir. Olaf Scholz y a rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui aussi convié au G7 en Bavière. Le président sénégalais Macky Sall avait indiqué dimanche qu'il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l'Union africaine dont il assume actuellement la présidence. La Russie avait adressé une invitation en ce sens, a souligné M. Sall. Le déplacement initialement prévu le 18 mai n'a pu avoir lieu pour des raisons de calendrier.
Radio Vatican, Français-Afrique, Donatien Niembo.
Au Soudan, les forces de l'ordre ont à nouveau violemment réprimé le week-end dernier des manifestations contre le coup d'État militaire. 7 mois après le coup d'État, dans les rues à travers le pays, la contestation se poursuit. Les précisions de notre correspondant Elliot Brachet.
Mohamed Khalees, 20 ans, est mort d'une balle dans la poitrine tirée par les forces de l'ordre. Immédiatement après son enterrement, samedi soir, de nombreux quartiers se sont embrasés dans des manifestations nocturnes. La mission de l'ONU pour la transition soudanaise s'est dite profondément préoccupée par la poursuite de la répression excessive à l'égard des manifestants. Ces violences ne créent pas un climat favorable à une solution politique. Des négociations tripartites engagées sous la houlette de l'ONU, de l'Union africaine et de l'IGAD sont censées entrer prochainement dans une deuxième phase de consultation, mais aucune avancée concrète ne se profile. La mission de l'ONU est régulièrement la cible de la junte, qui pourrait bien ne pas renouveler son mandat. De leur côté, les comités de résistance qui refusent de s'asseoir à une table de négociation avec les putschistes ont annoncé une nouvelle escalade révolutionnaire pour cette semaine. Dimanche, des barricades se sont levées dans plusieurs quartiers de la ville. Lundi, une manifestation se tiendra à Omdurman, la ville voisine de Khartoum, en mémoire du 96e martyr de la Révolution, et une nouvelle millionia, Marche du Million, se tiendra jeudi à l'appel des comités de résistance à travers le pays. Eliott Brachet, Khartoum, Radio Vatican.
Les Nations Unies ont accusé dimanche les rebelles du M23 d'avoir délibérément attaqué des casques bleus dans l'est de la RDC, où les combats entre cette rébellion et l'armée congolaise avaient repris jeudi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté les attaques du M23 contre les forces armées de la RDC et contre les casques bleus de la MONUSCO dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, a indiqué un communiqué de la Force des Nations Unies en RDC. C'est une demande qui revient de plus en plus souvent de la part des pays d'Afrique australe. Le Zimbabwe réclame à la communauté internationale de pouvoir commercialiser son ivoire, acquis par mort naturelle ou confiscation, une pratique aujourd'hui interdite. Gabriel Porometo nous en dit plus.
136 tonnes de défense et de cornes d'une valeur estimée à 570 millions d'euros. C'est la réserve d'ivoire que possède actuellement le Zimbabwe et qu'il souhaiterait désormais vendre. Depuis 1989, le commerce mondial d'ivoire est interdit. Une interdiction que les pays d'Afrique australe remettent en cause depuis plusieurs années. Alors que les éléphants sont menacés sur le continent, cette région connaît une surpopulation. Avec 100 000 spécimens, le Zimbabwe possède un quart des éléphants d'Afrique. Selon le gouvernement, cette vente permettrait de mieux gérer sa population d'éléphants en la protégeant, mais aussi en protégeant les habitants qui doivent cohabiter avec ces animaux dangereux. Depuis le début de l'année, 60 personnes sont déjà mortes dans des accidents impliquant des éléphants qui causent aussi des dégâts aux cultures. Mais pour les détracteurs du projet, toute vente légale d'ivoire ne fait qu'augmenter le braconnage. En 2008, une vente similaire avait été autorisée et avait ensuite entraîné une très forte augmentation des ventes illégales du fait de la hausse de la demande. Johannesburg, Gabriel Porometto pour Radio Vatican.
Vous continuez à être à l'écoute de Radio Vatican. À présent, notre magazine.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Le magazine se penche aujourd'hui sur la 75e Assemblée mondiale de la santé qui a ouvert ses portes dimanche 22 mai à Genève en Suisse. Les menaces sanitaires sans précédent que connaît le monde sont au centre de cette rencontre qui a pour thème principal la santé pour la paix pour la santé et se déroule jusqu'au 28 mai. La guerre en Ukraine et son cortège de menaces planétaires, une pandémie de COVID-19 interminable, les 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé tentent, dans ce contexte, mettre sur pied un système de santé mondial plus efficace et juste, dont les faiblesses ont été mises à nu par la pandémie de COVID-19. Le spectre d'une nouvelle crise de grande ampleur est lié au cas de variole du singe, une maladie endémique dans certaines parties du continent africain qui s'étend en Amérique du Nord et en Europe. Le directeur général de l'OMS est revenu sur la situation sanitaire de la planète au cours des 5 dernières années. Le parcours de transformation entrepris par l'Organisation mondiale de la santé confronté à de nombreux défis tels que la pandémie due au coronavirus est loin d'être terminé et 90% des États membres signalent une interruption d'un ou plusieurs services de santé essentiels. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus indique les 5 priorités qui le tiennent à cœur pour les 5 prochaines années. Il a appelé chaque gouvernement à placer la santé de sa population au centre de ses plans de développement et de croissance. Il souligne combien la pandémie a démontré pourquoi le monde a besoin de l'OMS, mais aussi pourquoi le monde a besoin d'une OMS plus forte, plus autonome et financée de manière durable. Le thème de la santé pour la paix et de la paix pour la santé est revenu dans l'allocution du directeur général de l'OMS, qui a rappelé le programme ambitieux qui accompagnait son élection il y a 5 ans pour la couverture sanitaire universelle, les urgences sanitaires, la santé des femmes, des enfants et des adolescents, les impacts sur la santé des changements climatiques et environnementaux et une organisation mondiale de la santé transformée. Toutefois, il souligne des tendances et des succès encourageants à célébrer. Dans la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, de nombreux pays progressent en réduisant l'utilisation des produits nocifs pour la santé. La consommation de tabac continue de baisser. Depuis 2018, le nombre de pays en voie d'atteindre l'objectif d'une réduction de 30% du tabagisme entre 2010 et 2025 a presque doublé, passant de 32 à 60. Des progrès encourageants par rapport à l'objectif d'éliminer les gras trans produits industriellement de l'approvisionnement alimentaire mondial. Les efforts pour voir 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficier de la couverture maladie universelle d'ici 2023 sont pourtant loin derrière et les progrès sont inférieurs au quart de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Avant même la pandémie, on estimait que 270 millions de personnes supplémentaires seraient couvertes d'ici 2023, un déficit de 730 millions de personnes contre l'objectif de 1 milliard. Les perturbations des services de santé pendant la pandémie ont fait reculer la tendance. Néanmoins, le programme spécial de l'Organisation mondiale de la santé sur les soins de santé primaire soutient 115 pays contre 30 il y a 5 ans. Depuis 2015, 95% de ces pays ont progressé vers une couverture accrue de services. L'Organisation mondiale de la santé table également les tendances encourageantes dans son travail de renforcement du personnel de santé mondiale. Au cours des 5 dernières années, elle affirme avoir réalisé des progrès significatifs dans l'élargissement de l'accès aux médicaments et autres produits de santé essentiels. Elle a préqualifié 53 vaccins, 50 diagnostics in vitro et 288 médicaments, dont de nouvelles thérapies importantes pour le VIH et le sida, l'hépatite, la tuberculose, le paludisme, les MTN ainsi que la COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé a évalué les systèmes de réglementation dans 80 pays et aidé 10 nouveaux pays à se développer vers des niveaux de réglementation plus élevés, dont 4 sur le continent africain, à savoir l'Égypte, le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie.
Invité du jour.
Dans quelle mesure la guerre en Ukraine impacte les pays les plus vulnérables? La cessation des exportations de céréales russes et ukrainiennes, qui à elle seule représente 30% du marché mondial de blé, n'est pas sans conséquence sur un pays comme la République centrafricaine. Le pays lentement retrouve un semblant de sérénité sur 80% de son territoire. Les rebelles qui combattent les forces gouvernementales depuis 2013 ont été repoussés loin des grandes villes, mais si la situation sécuritaire s'améliore, c'est la situation alimentaire qui inquiète, d'autant que l'aide promise par les donateurs peine à arriver. Sur le plan de réponse humanitaire des Nations Unies de 460 milliards de dollars, seuls 22% ont été financés, alors que cette aide est qualifiée d'urgente par l'ONU. Les changements climatiques, la pandémie de Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine compliquent la pacification du pays. L'archevêque de Bangui tient cependant à rester optimiste. Il s'engage pleinement dans le processus de réconciliation qui permet progressivement aux enfants de retrouver le chemin de l'école, aux agriculteurs de cultiver leurs champs et aux malades d'être soignés. Le cardinal Dieudonné Nzapalainga est notre invité du jour.
La République centrafricaine, depuis 2021, a amorcé un nouveau départ. Dans le sens qu'en 2020, on a frôlé le pire avec un coup d'État qui était à la porte de Bangui. Maintenant, nous pouvons dire que 80% du territoire est occupé par l'État. Et qui dit 80% occupé par l'État, dit présence d'État, dit aussi une circulation des populations. Ce qui nous préoccupe, qui nous préoccupait, c'est de ces populations qui ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations, aller au champ, aller faire de commerce. Les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, les gens qui ne peuvent pas se soigner, parce qu'il y avait une insécurité permanente. Maintenant que ces rebelles se replient dans la brousse, plus loin, 30, 40 kilomètres des grandes villes, dans la grande ville, les gens circulent, et la vie devient tout autre. Notre souhait, c'est que tous ceux qui sont repliés à l'intérieur, dans la brousse, les jeunes surtout, déposent les armes et qu'on puisse se regarder en face, collaborer, travailler pour contribuer au développement de notre pays.
Est-ce que vous pensez que la situation est propice à des négociations justement dans cette direction pour que ces rebelles puissent arriver à déposer les armes?
Moi, j'ai vu beaucoup de rebelles. Parce que la guerre, ça fatigue. Qui en ont marre. Les chefs sont partis au loin et qui veulent déposer les armes, reprendre les activités. Et nous avons insisté, poussé le gouvernement centrafricain avec la communauté internationale en disant « Unissons nos forces ».
Monsieur le cardinal, vous dites « nous ». Est-ce que ça veut dire que l'Église peut être médiateur?
Ben, l'Église est présente. La preuve, quand les jeunes sortent, nous, et qui viennent vers nous, nous allons interpeller les représentants de l'État pour leur dire, voilà, il y a des jeunes qui veulent changer de vie. Il y a des jeunes qui veulent orienter leur vie. Il y a des jeunes qui veulent maintenant être considérés comme des citoyens. Dans cette affaire de rébellion, il y a des jeunes qui ont fait ce qu'on appelle le suivisme. Ils savent même pas pourquoi ils sont engagés. Et quand je dis nous, oui, l'Église est impliquée, parce que l'Église ne doit pas être en dehors de la société. L'Église est une sensibilité dans la société et elle doit aussi être en avant-garde avec sa vigilance. N'oublions pas, l'Église a une mission prophétique pour voir, dire, anticiper parfois ce que les autres ont peur ou n'ont pas l'audace de le faire. Et nous le faisons, mais au nom de l'Évangile.
Est-ce que le contexte international est favorable? Parce qu'on a eu 2 ans de pandémie de Covid, on a aujourd'hui la guerre en Europe, notamment entre la Russie et l'Ukraine, et précisément ces deux dossiers ont aggravé, et si on y ajoute encore les changements climatiques, la sécheresse, mais ces deux dossiers particulièrement ont aggravé la situation alimentaire mondiale. On parle de plus en plus d'une crise alimentaire, on sait que les pays africains sont les premiers impactés. Est-ce que dans ce contexte, la paix est encore possible? Et quel est l'impact précisément aujourd'hui de la pandémie, de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire de la population centrafricaine?
Le contexte international n'est pas propice. Mais est-ce que nous allons attendre que le contexte change pour que nous puissions aussi goûter au bonheur, au développement? Ou bien aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre à bras le corps, être responsables, pour ne pas dire prendre notre destin en main? sans attendre toujours qu'on nous pousse ou qu'on nous donne toujours les choses. Les réalités sont là. Et nous voyons d'ailleurs les conséquences sur notre population. Avec la guerre en Russie et en Ukraine, nous avons les conséquences ou les répercussions. Le prix du fer a augmenté, le prix du sel a augmenté, le prix du sucre a augmenté, parce que nous ne produisons pas toutes ces matières-là. Et nous sommes là, quelque part, comme tributaires, et nous subissons dans cette situation-là. Donc, il y a un impact négatif. Or, la pauvre maman, qui travaille encore traditionnellement avec la houe, ce qu'elle gagne ne lui permet pas d'acheter le double, le triple de ce qu'on est en train de demander. Donc, c'est difficile pour beaucoup de parents, difficile pour beaucoup de ménages chez nous de pouvoir s'en sortir avec cette crise déclenchée ailleurs et qui a ses conséquences même en République centrafricaine.
Interrogé par Jean-Charles Puzzolu, le cardinal du Donenza Palainga, archevêque de Bangui, était notre invité du jour.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Donatien Niembo vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Au revoir et à la prochaine.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis. Car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Quelle joie d'être toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh, quelle joie d'être toujours à toi.